Rayon Libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et ben, cette émission, elle est en direct. Et cette semaine, on va parler du système vélo-cargo. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis en direct donc avec mon invité. Vous êtes sur Cause Commune. C'est le moment de Rayon Libre. Et cette semaine, donc, comme je le dis, d'un système vélo à un système vélo-cargo. Mais avant, je m'adresse à toi qui nous écoutes. Merci pour ta fidélité, tes messages, tes suggestions. Merci pour tes likes sur les réseaux, sur les plateformes d'écoute. Et oui, ça nous aide à émerger. Merci aussi à l'équipe de Cause Commune, tous et toutes. Merci pour ton temps pour faire vivre cet espace, ce lieu, cette fréquence. Merci à toi qui le remplit cet espace, qui tend le micro, qui porte des sujets trop peu visibles dans l'espace médiatique. Et avant d'évoquer le système vélo-cargo, je vais vous dire un truc. Le 15 octobre, un triste anniversaire, celui de la mort de Paul Varry, écrasé par un automobiliste délibérément à Paris. Depuis, nous avons eu un rapport, prévenir les violences et apaiser les tensions pour mieux partager la voie publique, publié le 28 avril 2025 par la mission du préfet Emmanuel Barbe. Elle est sans équivoque et l'État doit désormais agir au plus vite. Le communiqué de presse de la FUB envoyé le 13 octobre à ce titre, je le cite, « Un an après le meurtre de Paul Varry, la lutte contre les violences motorisées est à l'arrêt. » À l'arrêt, eh ben, faudra pas compter sur l'État, donc quel État d'ailleurs? Un État dans tous ses États, ou au contraire, un État dans aucun de ses États? Faudra compter sur nous. Et aujourd'hui, je vous conte une expérience faite ce matin même pour venir au studio à vélo. Je pédale sur les grands boulevards, entre la porte d'Anières et la porte de Clichy. La piste cyclable est condamnée temporairement pour travaux. On a même un panneau « Vélo interdit ». Faudrait faire un détour. Les automobilistes ont un panneau limité à 30. Au quotidien, j'avoue, je ne respecte plus cette interdiction de pédaler sur cette portion. C'est un faux plat descendant. Je roule probablement entre 29 et 32 km/h. Théoriquement, donc, je ne ralentis pas les voitures. Sauf qu'évidemment, je me fais toujours rattraper par un automobiliste. Je roule au milieu parce que la voie n'est pas suffisamment large pour un dépassement serein. Et ben, ce matin, arrive dans mon cul un conducteur. Il me klaxonne, me demande de me coller à droite. Je lui réponds de la main non, non, avec un petit geste, tentant de lui faire comprendre que je suis bien désolé. En plus, je le vois, le feu est au rouge. Je le vois, il est un peu plus loin, le feu. Alors il patientera. Et puis arrivé au feu rouge, je me colle à gauche et invite l'automobiliste à venir à mon niveau. Il ouvre sa fenêtre, le dialogue s'instaure. Donc moi, bah désolé, hein, si je reste au milieu, ce n'est pas pour vous emmerder. Si vous me doublez, je suis coincé entre les barrières de travaux et vous. Et en vrai, c'est chaud. Lui me répond, eh oui, je sais, vous avez raison. D'un autre côté, c'est interdit le vélo le temps des travaux. Oui, je sais, d'un autre côté, c'est limité à 30. C'est à peu près la vitesse à laquelle je roule. Il me répond, je sais bien, je n'aurais pas dû vous klaxonner, je comprends que vous ne souhaitiez pas être doublé, c'est trop dangereux. On se sourit, on te souhaite une bonne journée, fin de l'histoire. Ce matin, j'ai fait fi du rapport Barbe, j'ai dialogué avec le sourire, j'ai à mon petit niveau prévenu de la violence avec mon copain éphémère et automobiliste. On a apaisé les tensions pour mieux partager la voie publique. Nous avons tous cette responsabilité, j'ai peut-être eu de la chance, la chance elle s'enfourche, elle se provoque. Ne croyez pas que je suis un parangon de l'apaisement de la route, la prochaine fois je vous raconte comment j'ai claqué un pare-brise à mi-colère, mi-peur. Aujourd'hui, avec mon invité, on va évoquer ceux et celles qui choisissent le vélo pour entreprendre, celles et ceux qui préfèrent pédaler plutôt que s'enfermer dans un véhicule utilitaire. Ils et elles doivent probablement composer avec les motorisés pour faire en sorte que leur déplacement pro ne soit pas une succession de haine et d'embrouilles. Quels sont les freins à l'entrepreneuriat avec un vélo? Est-ce que l'insécurité réelle ou perçue est un frein? Et si oui, comment l'association Les Boîtes à Vélo adresse ce sujet? Et si ce n'est pas un frein, quels sont les freins identifiés? Causons donc de vélo cargo et du rôle des boîtes à vélo pour promouvoir cette forme de mobilité. Cargo do it better, right? Bonjour Yolaine Devoix, merci beaucoup d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jérôme.
Yolaine, vous êtes la directrice des boîtes à vélo, hein, je vous demanderai de vous présenter juste après. Est-ce que vous identifiez quand même l'insécurité ou la violence routière comme un frein au développement des entreprises ou entrepreneurs qui considèrent ou aimeraient considérer le vélo comme un véhicule utilitaire?
Un frein très probablement, effectivement, pour les employeurs qui pourraient avoir des activités compatibles avec le vélo cargo, c'est-à-dire une charge emportée autour de 100-200 kg maximum dans un rayon urbain probablement ou principalement en tout cas de 5 à 10 km à peu près de zone de chalandise ou de zone d'activité. Ce sont des cadres qui sont tout à fait compatibles à passer au vélo cargo et c'est vrai que dans les premiers freins qu'on identifie, plutôt pour des entreprises ou des collectivités d'ailleurs classiques, conventionnelles, ou qui ont un fonctionnement, une mobilité conventionnelle, disons, eh bien, c'est le premier frein qu'on entend, ou un des premiers freins, c'est effectivement la question de la sécurité, de l'équipement, etc. Et puis, dans les retours que l'on peut avoir de nos adhérents et de nos adhérentes, C'est vrai qu'ils sont confrontés plus encore que les autres cyclistes parce que toute la journée sur un vélo, donc entre 40 et parfois 100, 120 km par jour parcourus.
Et, puis au-delà du nombre de kilomètres, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est le temps de travail, c'est de 9h à 18h ou c'est de 8h, enfin c'est bref, c'est une journée de 8h ou 7h sur le vélo. Dans l'espace public.
Pour la plupart, ouais. Oui, effectivement, notamment toute la partie logistique et transport. Et effectivement, ils sont très confrontés à ces incivilités-là, parfois à des accès de violence, à des comportements dangereux des autres usagers de la route, souvent les usagers motorisés. Ouais. Et c'est vrai que nous, ce que l'on prône, c'est quand même une formation de l'ensemble des usagers de la route avec un bon report de chacun sur son bon espace et une bonne valorisation de la place de chacun, de chaque mobilité sur la route, les piétons, les cyclistes et les véhicules motorisés.
Mais une bonne formation, une bonne éducation à tous, c'est un peu un vœu pieux, non ?
C'est un peu un vœu pieux, je sais pas, on peut toujours l'espérer. Il y a la question de la formation déjà, nous, sur laquelle on travaille, parce que c'est notre zone de compétence des cyclologisticiens, cyclologisticiennes, des coursiers, des coursières. On est en train de mettre en place là, une formation de 3 jours avec les bases du code de la route, en tout cas un petit rappel, comment bien utiliser son vélo, etc. Et puis, aux côtés de structures comme la FUB, on s'aligne aussi sur la question de la formation de l'ensemble des usagers, notamment plutôt les questions de ceux qui sont dans des véhicules motorisés, de ne pas s'arrêter sur une bande cyclable, une piste cyclable, etc.
Yolaine Urvois, peut-être qu'il faut que vous vous présentiez quand même, que nos auditeurs et auditrices sachent qui est cette personne qui parle en face de moi.
Eh bien oui, je suis donc Yolaine Urvois, directrice de l'association Boîte à Vélo France. Je vais plutôt vous parler de l'association.
Ouais.
L'association Boîte à Vélo France a été créée en 2019 avec différentes structures qui s'étaient déjà créées dans les villes à partir de 2012. On réunit les entreprises, les entrepreneurs, les entrepreneuses qui ont fait le choix du vélo et du vélo cargo pour leurs déplacements liés à leur activité professionnelle.
Ouais.
On réunit une cinquantaine de métiers, 350 structures adhérentes à peu près, une cinquantaine de métiers, de l'artisanat, du bâtiment, des métiers d'intervention, de service, de la restauration, des professionnels de santé, et puis également toute la partie logistique, transport, donc cyclo-logistique, c'est ce qu'on voit le plus dans les rues, et notamment dans les rues de Paris.
Oui.
Et puis on a la chance d'avoir également dans notre association les apporteurs de solutions matérielles, techniques et technologiques, fournisseurs de vélos cargo, fabricants, revendeurs, également plutôt des solutions technologiques, de logiciels, de conseils, etc.
Est-ce que, alors on en parlait un peu en dehors, en attendant la prise d'antenne, on parle notamment vous parlez beaucoup, et les boîtes à vélo, c'est beaucoup le vélo cargo. Est-ce que vous avez une approche très vélo cargo et uniquement vélo cargo, ou finalement tous ceux et toutes celles qui décident d'entreprendre avec le vélo comme un moyen de déplacement auraient leur place au sein des boîtes à vélo?
Oui, tout à fait. C'est vraiment le vélo et le vélo cargo. C'est vrai que par usage et par facilité, et aussi pour montrer, dans l'imaginaire de nos interlocuteurs, nos interlocutrices, que le travailler à vélo, c'est pas du folklore. Il y a des vraies capacités d'emport. C'est un vrai outil de travail.
Ouais.
On a tendance à parler plutôt du vélo cargo avec une grosse caisse devant ou derrière qui peut transporter jusqu'à 300 kilos. Dans la vulgarisation, on utilise aussi beaucoup le fait que 300 kilos, c'est l'équivalent d'un demi-kangou, par exemple, en termes de capacité d'emport. Donc ça ouvre un peu l'imaginaire. Mais c'est vrai que le sujet, en tout cas ce qu'on adresse, c'est le fait d'utiliser un vélo pour ses déplacements professionnels. Nous, on n'est pas dans le vélo-taf, c'est un autre usage, et c'est plutôt de l'usage individuel pour aller au travail. Nous, c'est pas tellement notre sujet, on est vraiment dans l'utilisation au travail.
Et donc ça veut dire, parce que vous avez parlé notamment de cyclo-logistique, on recevait d'ailleurs Paul Roudeau c'était en novembre 2022 qui portait c'était le moment de la création de cette fédération française de la cyclo-logistique. Vous avez deux cœurs de métier ou deux cœurs d'activité au sein des boîtes à vélo, la cyclo-logistique d'un côté et l'accompagner, et de l'autre l'entrepreneur, l'entrepreneuse, ou même l'entreprise ou la collectivité. D'ailleurs vous avez des collectivités qui sont membres des boîtes à vélo?
Oui, tout à fait, on a quelques collectivités. Nous, notre sujet, c'est vraiment de favoriser l'essor, la généralisation de l'usage du vélo cargo au quotidien. C'est vrai que pour ça, la cyclo-logistique, c'est ce qui est aujourd'hui le plus développé. C'est là où on a le plus d'entreprises et le plus de vélo cargo qui roulent également, parce que ce sont souvent des structures avec des salariés. Là où dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt des entreprises avec une, deux, trois personnes maximum. Ouais. Et donc, la cyclo-logistique est ce qui, jusqu'ici en tout cas, a le plus porté les actions de l'association, et puis aussi l'essor du vélo cargo, le fait d'avoir des discussions à la table des fédérations de transport, à la table de l'ensemble des opérateurs publics et privés en lien avec le transport. C'est vraiment par la cyclo-logistique, parce que c'est l'effet de masse et de massification, parce que c'est aussi ce qui se voit le plus. Et puis, donc on adresse ce sujet-là, on adresse aussi par des programmes, notamment un programme qui s'appelle Cyclo-Cargologie, qui est vraiment dédié au fait de déployer la cyclo-logistique oui. à grande échelle.
Et donc c'est là, on parle pour le coup d'un système vélo-cargo, comme je le disais dans le titre de l'émission.
Tout à fait, oui. effectivement, avec des actions de sensibilisation, de communication, faire vraiment exister cet usage mmh. et se faire se rencontrer aussi les acteurs du transport et de la logistique et les solutions, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient à vélo ou pas à vélo, les faire se rencontrer, montrer les solutions et faire en sorte que ça puisse se développer, qu'il puisse y avoir plus de sous-traitance ou d'intégration de vélo-cargo dans sa zone de pertinence. Travailler sur des questions de formation, travailler sur des questions de digitalisation, d'interconnexion, en tout cas, travailler par brique à lever les freins ou lever les barrières au développement du vélo cargo dans toute sa zone de pertinence. Donc ça, c'est pour la partie cyclo-logistique. Et effectivement, l'entrepreneuriat, c'est le cœur de métier des boîtes à vélo, c'est l'histoire des boîtes à vélo aussi. Ouais. C'est d'abord des entrepreneurs et des entrepreneuses. C'est né à Nantes, je tiens à le dire quand même, c'est important.
mais Nantes, c'est la Bretagne ou la Vendée? Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Je ne répondrai pas, étant moi-même bretonne par ailleurs. je ne pourrais pas aller sur ce terrain, mais en tout cas, ça vient de l'Ouest.
Ouais.
Et c'est vraiment l'entrepreneuriat, et puis qui a créé ça, et puis c'est grâce aussi à ces entrepreneurs et ces entrepreneuses pionniers de cet usage-là qu'on a pu développer tout un réseau, mailler tout le territoire, avoir aujourd'hui une présence dans plus de 80 villes en France, et que ça existe, qu'il y a des interlocuteurs aussi au niveau de chaque collectivité. Il y a des interlocuteurs, on a des associations locales, on a des professionnels qui sont engagés, et tout ça c'est important effectivement pour créer ce système vélo cargo.
Et si on devait résumer la mission des boîtes à vélo en une phrase, ce serait quoi ?
C'est vraiment de contribuer à notre échelle à construire, co-construire un cadre favorable avec tout ce que ça implique hein, au développement de l'usage du vélo cargo. Le cadre favorable, il est autant sur la question de l'infrastructure, des aménagements, sur la question
sur des questions réglementaires aussi.
Pareil, on
évoquait le sujet avant de prendre le micro, mais vous me racontiez que le vélo assistance électrique, ou en tout cas le vélo cargo, il a pas les mêmes avantages fiscaux que la Kangoo justement.
Tout à fait. Alors le vélo cargo aujourd'hui n'a pas de définition déjà dans le code de la route. C'est des sujets qui sont au travail, hein, qui sont portés par le ministère des Transports et la Sécurité routière, auxquels on participe bien évidemment, parce qu'on co-construit ce cadre favorable. Et c'est vrai que le vélo cargo n'a pas cette définition-là, n'a pas d'aide à l'achat ou n'a plus d'aide à l'achat, a été parmi les premiers lorsque le bonus écologique a été arrêté du jour au lendemain l'année dernière. Il est resté des choses pour le véhicule utilitaire électrique, il n'est rien resté tout de suite pour les vélos cargo. Il n'est pas non plus... Il y a un texte de loi qui est dans la LOM, la loi de l'orientation des mobilités, qui oblige les entreprises de plus de 100 véhicules à passer, à verdir leur flotte, et donc à remplacer des véhicules par des véhicules à très faible émission. Et bien dedans, le vélo cargo n'est pas compté. Donc une entreprise qui ferait le choix de remplacer une camionnette par un vélo cargo, eh bien c'est un peu la
ou deux même,
ou deux, même.
Puisque vous venez de dire qu'un vélo cargo, vous venez de dire qu'un vélo cargo c'est la moitié d'une petite estafette, donc allez, on en met deux.
Oui, on peut.
En réalité, un vul
et un vélo cargo, c'est à peu près du 1-1 parce qu'on s'organise différemment. Donc il n'y a pas besoin de deux vélos cargo pour remplacer un vul. C'est simplement une organisation un peu différente.
Un vul, c'est un véhicule utilitaire léger.
Tout à fait, une petite camionnette. Pour ne pas citer trop de modèles. Mais en tout cas, c'est à peu près du 1-1. Eh bien aujourd'hui, une entreprise qui choisirait de remplacer un ou plusieurs vuls par des vélos cargo, eh bien ne rentrerait pas dans ses quotas. Donc aurait de toute façon des amendes pour remplir ses quotas. Donc c'est un peu la double peine. Et ça, c'est vraiment quelque chose, typiquement dans notre travail de plaidoyer, qui est une des missions de l'association, de travailler à ça, à sensibiliser aussi à cette réalité-là, qui en fait est peu connue et on le comprend, mais c'est notre travail aussi de le montrer et de le présenter, et puis essayer de trouver les bons leviers pour que ça puisse à terme être intégré.
Parce que là, on parle de leviers financiers, il y a d'autres leviers qui seraient l'efficacité ou même le plaisir de se déplacer à vélo plutôt que d'être dans les embouteillages, par exemple.
Oui, tout à fait. L'efficacité, la productivité, pour utiliser des termes d'entreprise, effectivement, ça fait partie des premiers leviers, des premiers intérêts à passer au vélo cargo. Et tout ça, ce sont des choses qui se montrent, qui se démontrent aussi. En tout cas, ouvrir un peu tout cet imaginaire-là, cet imaginaire professionnel, ça fait aussi partie de nos missions.
Donc ça veut dire que, pardon, les boîtes à vélo, vous prenez votre bâton de pèlerin, vous mettez vos kits de formation dans un vélo cargo, que ce soit un biporteur, un triporteur ou un longtail, ou dans une remorque, et vous allez présenter cela aux entreprises qui font de la logistique ou qui ont plus de véhicules ?
Alors, on on essaye en tout cas d'être présent auprès des intermédiaires, auprès des collectivités, d'être visible, d'être présent sur des événements dédiés à l'entrepreneuriat, d'être présent sur des événements dédiés à la logistique, d'organiser nos propres événements aussi dédiés à la logistique, à la cyclo-logistique.
Ça, on y viendra,
Et puis, pour voilà, montrer tout ce qui existe, là, on vient de sortir une campagne de communication aussi pour être, pour à grande échelle en tout cas, ou à la plus grande échelle possible avec les moyens qu'on a aujourd'hui, voilà, titiller un peu l'esprit des gens pour que
on va en parler en deuxième partie d'émission, justement, de ces événements que vous organisez. Vous me disiez, vous en faites une trentaine sur trois ans, c'est ça. Et puis la campagne Cargo Do It Better que vous venez de lancer, on en parlera juste après, parce que là, pour l'instant, on est déjà à la mi-temps de Rayon Libre. Vous êtes sur Cause Commune 93.fm, c'est un Rayon Libre qui tente de faire rentrer un cylindre dans une boîte carrée. On va s'écouter Love is a Drug de Roxy Music et on se retrouve dans quelques minutes. Et nous sommes avec Yolaine Urvois, bretonne et directrice de cette association Les Boîtes à Vélo. À tout de suite. Avec Yolaine Urvois, directrice des Boîtes à Vélo, une association qui porte la place du vélo dans l'entreprise et la place du vélo cargo dans la société. Parlons action des Boîtes à Vélo. Vous me disiez juste avant la pause musicale, il y a deux actions, on peut dire emblématiques ou tangibles, en opposition au plaidoyer qui lui est probablement un peu plus intangible. Vous avez deux actus, la COM, donc Cargo Do It Better, et les séminaires, notamment sur la cyclo-logistique. Commençons peut-être sur les séminaires de la cyclo-logistique, si vous voulez bien, Yolaine.
Oui, et alors effectivement, dans le cadre du programme que l'on porte, qui s'appelle Cyclo-Cargologie, on a un volet important de sensibilisation, de communication, et donc dans ce cadre, on organise une trentaine d'événements entre 2024 et 2020 et fin 2026, donc un rythme assez effréné. Et donc, on va sur les territoires organiser des forums de la cyclo-logistique pour que on y fasse se rencontrer des opérateurs de cyclo-logistique du territoire, des opérateurs de la logistique et du transport du territoire, des collectivités ou des organismes publics et privés, mais qui sont aussi très moteurs pour le développement de la cyclo-logistique, parce que eux-mêmes donneurs d'ordre ou chargeurs ou commissionnaires, ou en tout cas qui opèrent ou qui font opérer les flux logistiques, parce que dans le cas de collectivités, par exemple, les politiques publiques des collectivités ont un impact très important en termes réglementaires pour favoriser ou non le développement ou l'essor de la cyclo-logistique sur un territoire et travailler les questions d'apaisement des centres urbains, notamment par là, de questions de la qualité de l'air, enfin, tous les co-bénéfices évidemment de l'essor de la cyclo-logistique. Et puis également, montrer des vélos. On a à chaque fois un petit espace exposant avec entre 5 et 10 exposants qui sont là pour montrer, faire tester les vélos, regarder comment ça marche, essayer, etc.
Et ces forums, ils s'adressent à qui justement ? Qui vient ?
Il s'adresse vraiment à tout l'écosystème logistique et transport d'un bassin dans lequel on est. Donc on essaie de mailler au mieux le territoire en lien avec des collectivités, des métropoles qui sont aussi intéressées par le sujet. On a fait les grandes villes, hein, Paris, Lyon, Marseille, mais on va aussi à Orléans, à La Rochelle, à Annecy, à Lille. Je vais pas tous les faire, mais
Mais ça veut dire que j'imagine vous travaillez avec les collectivités locales et les collectivités locales, elles ont connaissance d'une entreprise qui fait de la logistique. Elles l'invitent, elles lui disent viens avec, au lieu de venir avec tes gros camions, tu viens avec ta voiture et tu viens écouter ce qu'on a à te proposer, c'est ça ?
Exactement. Et donc dans ces forums, on organise, on a toujours un temps un peu de global du potentiel de la cyclo-logistique. Et puis ensuite, souvent, ce sont plutôt des interviews croisées entre un donneur d'ordre et un cyclo-logisticien, une cyclo-logisticienne par exemple. Donc le donneur d'ordre étant le client de l'opérateur de transport du dernier kilomètre, ou alors entre un opérateur de transport qui fait du mixte, donc qui fait autant du VUL ou véhicule utilitaire léger de la camionnette, disons, que du vélo cargo, et son fournisseur de solutions, le fabricant de vélo cargo auprès de qui il opère, essayer d'avoir vraiment du très très concret et inspirant pour l'ensemble de ces cibles-là.
Et qu'est-ce qui leur sort ? Là, vous en avez fait une la semaine dernière notamment. Qu'est-ce qui leur sort de ces réunions ? Est-ce que ça concrétise ? Est-ce que ça transforme ?
Alors, ce qu'il en ressort, c'est vraiment, effectivement, on était la semaine dernière à Rennes et sur un format assez singulier cette fois-ci parce qu'on était en co-organisation avec Bretagne Supply Chain, qui est une structure en Bretagne sur la question de la logistique et du transport. Et donc, c'était le forum de la logistique et de la cyclo-logistique. Ouais. Donc, on avait vraiment une cible élargie aussi par rapport aux précédentes éditions avec des ateliers. On avait organisé un peu les choses différemment. Ce qui en ressort, c'est souvent plusieurs intérêts pour les collectivités. Ça donne vraiment beaucoup de concret et ça engage souvent des envies ou de mener des actions complémentaires ou de continuer à mener des actions. Et nous, plus effectivement, surtout d'ailleurs les opérateurs du territoire, eh bien ça crée une synergie à ce moment-là qui perdure. Pour les donneurs d'ordre, pour les chargeurs, pour les opérateurs de transport plus conventionnels, eh bien c'est souvent une curiosité qui est un petit peu étayée par tout ce qui va être vu à ce moment-là, et puis des prises de contact aussi avec des apporteurs de solutions, soit en sous-traitant, soit en matériel, etc. Et puis pour les écosystèmes locaux plus proches de la cyclo-logistique, nos adhérents par exemple, eh bien c'est un espace de rencontre et où émerge aussi, qui fait du bien à tout le monde, de se rencontrer, de se voir, d'avoir des vrais temps d'échange, de discussion, etc. Et ça joue aussi, ça fait aussi partie de la dynamique de ces temps-là, qui sont des événements entre 50 et 150 personnes sur une journée. C'est souvent assez convivial, très sérieux, mais très convivial.
Et est-ce que ça veut dire, j'imagine, alors moi, évidemment, moi je suis un peu au courant de, malgré tout, de tout ce que ça implique de mettre en place de la cyclo-logistique et donc notamment les hubs en centre-ville, les zones de chargement et de déchargement en centre-ville. Est-ce qu'il n'y a pas l'effet inverse de quand quelqu'un, un président de collectivité qui voit et qui a envie de le faire, est-ce qu'il se dit pas, oh la vache, tout ce qu'il y a à faire avant que ce soit opérationnel ?
Alors ça s'accompagne, souvent déjà il y a des choses qui sont faites et qui sont bien faites, et puis après c'est chaque territoire, alors il y a un certain nombre de leviers qui sont communs à l'ensemble des territoires, mais selon le niveau de maturité, disons, par rapport au développement du vélo et de la cyclo-logistique, selon les dynamiques de territoire, selon la topographie aussi du territoire, ça a son importance. Eh bien, ce ne sont pas forcément les mêmes leviers qui vont être activés, mais effectivement, il y a la question du foncier, d'avoir accès à un bon hub ou des bons espaces, pas trop loin du centre, mais pas non plus trop enclavé, parce qu'il faut déjà être approvisionné. Et c'est pas en vélo cargo qu'on est approvisionné en général, parce qu'il se tient un petit dispatch qui est fait. Des questions de ce qu'on appelle les zones d'apaisement des centres urbains, les horaires de livraison par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Et puis les collectivités, c'est aussi des acheteurs.
Ouais.
Et c'est aussi des employeurs de personnel qui ont une mobilité professionnelle. Ouais. Donc il y a tous ces leviers-là qui peuvent être activés. Et après, c'est de la discussion et des bonnes pratiques aussi activées. Nous, aux boîtes à vélo, parmi l'ensemble des choses que l'on a la chance de pouvoir mettre en place, on a aussi une vocation à créer des guides pédagogiques pour les collectivités, pour les professionnels, etc., pour commencer à cibler un petit peu des premières actions à mettre en œuvre.
On va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim et après on échangera sur Cargo Do It Better, votre campagne de publicité. On aura un tout petit peu de temps pour le faire, mais parce que oui, bah, le temps file. La chronique d'Abel Guggenheim, il revient lui aussi sur la mort de Paul Varilla et l'état de la lutte contre les violences entre usagers sur la voie publique. Pas très réjouissant, même si les mots d'Abel Guggenheim, comme d'habitude, ils le sont. Abel, c'est à toi.
Bonjour. Le 15 octobre 2024, il y a eu un an mercredi dernier, le militant cycliste Paul Varilla était écrasé par un automobiliste place de la Madeleine. Ce triste anniversaire a été commémoré ce jour-là par un cortège cycliste entre le square du Temple, près de là où il habitait, jusqu'à la place de la Madeleine, lieu du drame, en suivant principalement la piste cyclable de la rue Réaumur, qui porte désormais le nom de Paul. Des discours d'hommage et des témoignages ont été lus, en particulier pour Paris Ancel, association dont Paul était membre actif, par Marion Soulet, porte-parole, et Anne Montmarché, présidente, et par Alexis Frémaux, président du MDB. La mère de Paul était présente, comme lors de toutes les manifestations antérieures en mémoire de son fils. Toujours murée dans son immense chagrin, elle semblait réconfortée par la chaleureuse présence de plusieurs centaines de cyclistes graves, mais déterminés à poursuivre le combat de Paul. Comme je vous l'ai déjà dit, l'ayant côtoyé au comité des mobilités actives de Paris Centre, j'ai pu l'apprécier tant comme militant ferme mais attentif que par ses qualités humaines remarquables. La mort d'une personne de qualité n'est bien sûr pas plus injuste que celle d'une autre personne, mais elle peut provoquer des émotions plus intenses chez les personnes qui la connaissaient. L'acte semblant avoir été volontaire et l'automobiliste ayant été inculpé de meurtre, la tristesse, la colère et l'indignation des cyclistes et de leurs associations ont provoqué une mise en évidence de la fréquence et de la gravité des violences motorisées, tant entre motards et automobilistes que vis-à-vis des piétons, mais surtout des cyclistes. L'inspecteur général d'administration Emmanuel Barbe, ancien délégué interministériel à la sécurité routière, a été chargé de la rédaction d'un rapport intitulé « Prévenir les violences et apaiser les tensions pour mieux partager la voie publique », remis le 25 avril au ministre chargé des Transports, Philippe Tabarot. Les 40 recommandations de ce rapport, dont 15 sont jugées prioritaires, sont destinées à faire l'objet d'un travail interministériel pour définir les modalités de leur mise en œuvre. Elles portent notamment sur la formation et l'information, les conditions et règles de circulation, l'examen du permis de conduire et sa préparation, la verbalisation des infractions, la voirie des aménagements cyclables et l'équipement des véhicules, la publicité autour des véhicules, la signalisation volontaire des cyclistes. La FUB, Fédération des usagers et usagers de la bicyclette, joue le jeu du travail avec l'État à partir de ce rapport, mais en rappelle certaines insuffisances et déplore le retard apporté à sa mise en œuvre. On ne peut par ailleurs que craindre que, dans la situation politique complexe actuelle, le vélo ne soit pas forcément considéré comme une priorité. Je concluais ma chronique de la semaine dernière par une note pessimiste au sujet de la conflictualité entre cyclistes et piétons. J'aurais de la difficulté à être plus optimiste sur les rapports entre cyclistes et véhicules motorisés. Un lundi prochain.
Merci beaucoup Abel. Yolène, il nous reste allez, deux grandes minutes pour évoquer votre campagne Cargo Do It Better que vous venez de lancer. Décrivez-nous rapidement ce que vous avez voulu faire et ce que vous voulez dire, porter comme message avec cette campagne.
L'intention de cette campagne, c'est de faire rentrer, on est toujours là-dedans, hein, vraiment faire rentrer le vélo cargo dans l'imaginaire collectif. On a aujourd'hui, disons de manière schématique, hein, un premier cercle qui est plutôt un premier cercle de sympathisants, voire même de professionnels qui utilisent le vélo ou qui le feraient si leur métier était compatible à le faire. Un deuxième cercle qui est plutôt renseigné sur les enjeux des mobilités actives, etc. Et puis, il y a tous les cercles suivants qui sont toutes celles et ceux qui ignorent sans doute que le vélo cargo peut être une solution pour eux, que ça peut être un outil pertinent, efficace, etc. Et donc, on s'est dit, on avait la possibilité là de le faire. Allons chercher ces cercles-là et utilisons des codes qui ne sont pas des codes du vélo, qui sont d'autres codes pour aller les chercher. Donc, on a fait une campagne de promotion et de sensibilisation de l'usage du vélo cargo, mais qui reprend et détourne les codes de la publicité automobile. C'est pas une campagne de pub, notamment parce que les vélos qui sont mis en scène ne sont pas des vrais vélos. Ils ont été générés de manière artificielle ou en 3D, mais en tout cas, c'est pas des vrais vélos parce qu'on ne fait pas une pub d'un modèle, mais une pub de l'usage. Et donc, on reprend avec un spot visible sur les réseaux sociaux qui est déjà à près de 350 000 vues sur YouTube.
C'est bien.
Et puis, des affiches visuelles qui vont être aussi sur les réseaux, sur différentes pages web. Et puis, sur des vélos cargo, vous allez pouvoir en croiser en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous allez croiser des vélos avec notre campagne, vous pouvez les prendre en photo et nous les envoyer, on sera très contents.
Et il y a un hashtag et un site web qui s'appelle Cargo Do It Better, c'est ça?
Tout à fait, Cargo Do It Better, et puis ensuite ça renvoie sur le site des boîtes à vélo pour plus d'informations sur comment sauter le pas.
Et ben voilà, vous n'avez plus qu'à sauter le pas, chers tous qui nous écoutez, qui êtes un peu éloignés du vélo ou du vélo cargo. Merci beaucoup Yolaine d'être venue vous exprimer au micro de Rayon Libre. Auditeurs, auditrices, ce Rayon Libre est terminé, ne pleurez pas, il y en aura un la semaine prochaine, et n'oubliez pas, le vélo est une chance, ce serait dommage de ne pas l'enfourcher. Merci encore à vous, Yolaine, d'être venue. Restez sur 93.fm, Cause Commune. Il est 14h30. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages et vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine.